Vous écoutez
RMC.
RMC.
Moins il y aura de matchs à jouer, moins il y aura de points à prendre pour nos concurrents. Une zone mathématique.
69, 64, 63, 11 fois 14.
114.
154.
Compte tenu que j'ai eu mes diplômes dernièrement, maintenant je me prends pour un professeur de mathématiques.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'afterfoot qui ne vous donnera pas de leçon de mathématiques ce soir, puisque vous avez constaté quelques carences, mais qui continue tout de même jusqu'à minuit. L'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Et là, avec Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Florent Gautreux est là également. Salut Florent.
Salut à tous, amis du bémol, bonsoir.
L'événement ce soir dans l'after, c'est la semaine franco-portugaise, messieurs, qui arrive. On va en parler dans quelques secondes, à la veille de Marseille Sporting, à l'avant-veille de Benfica Paris. Florent Germain sera avec nous dans quelques instants pour les dernières infos marseillaises. Et puis à 22h40, Daniel veut parler du match du PSG mercredi. À 23h, Florent, lui, veut déjà analyser la valse à venir des entraîneurs en Ligue 1. Ce qui sait tout avant tout le monde.
Florent. Il anticipe en fait.
Exactement.
On vous proposera un petit jeu. Ouais. Il va avec.
Exactement, ce sera tout à l'heure. Et puis à 23h30, nos célèbres questions de la Ligue 1 qui sont là. Il y aura du Nantes, il y aura du Nice, il y aura du Lille. Il y aura du maintien au programme ce soir. On a une magnifique semaine de Coupe d'Europe qui arrive.
On sait déjà les équipes qui vont descendre. Ça se clarifie assez vite cette année, je trouve.
Ah bon ?
Non, je ne suis pas sûr.
Bah, Ajaccio, c'est déjà en Ligue 2.
Ajaccio, ouais.
Après, il y a des clubs pour lesquels il ne faut pas s'inquiéter. Mais moi, je m'inquiète.
Très bien.
Ouais, voilà. Mais ça en fait déjà plus que les traditionnels candidats à la descente.
Angers, par exemple, tu t'inquiètes?
Angers, bah oui. Je m'inquiète.
Hein. Angers, ils ne sont pas dans les gammes, il faut s'inquiéter. Non.
Auxerre, clairement.
Tu as 8 points entre 3. Le 11e et le 20e, Daniel. 4 points, je crois.
Bah, 3, je m'inquiète moins pour 3 que pour Strasbourg, par exemple.
Ah bon?
Oui. Bah, je ne sais pas, c'est un moment, il va falloir gagner un match, hein, Gilbert. Je sais pas, t'as prévu que le foot, ça se passait comment?
Ajaccio a gagné plus de matchs que Strasbourg cette année.
Oui, ils sont derniers. La voiture à friction va démarrer.
Et là, ça non, mais je sais pas, moi, je veux bien, moi, qu'on s'inquiète quand même.
S'il te plaît. Tu vois, tu m'empêches d'articuler. Je voulais parler de ça tout à l'heure, parce qu'on va pas démarrer par le maintien. Il y a des sujets plus importants cette semaine, dont donc ce feuilleton franco-portugais qui s'annonce. Juste avant, on a un match de Ligue 2. Une affiche Florent Gautreux, messieurs, dames. Laval-Bordeaux. Ouais. Xavier Grimaud, bonsoir.
Salut Gilbert, bonsoir messieurs. 62 minutes et pendant la pause de Laval a rejoint les Girondins de Bordeaux. On va suivre un corner pour les Bordeaux. Les tirs au deuxième poteau, ça donnera rien avec une perte de balle coupable de Clément Michelin pour Gregersen. Passe dans l'axe, récupération rapide pour les Lavalois et c'est Julien Maggiotti qui vient égaliser. Un bon match de Ligue 2. Hein. Ce soir, il y a beaucoup d'occasions. Bordeaux a ouvert le score très tôt dès la 5e par Josh Maja, le meilleur buteur bordelais. 6e but de la saison. Ensuite, ça s'est bien équilibré avec des occasions des deux côtés. Un très bon gardien lavallois, Alexis Sauvage, qui juste avant l'égalisation lavalloise a sorti une grosse parade sur une frappe d'Issouf Sissoko. Et voilà, donc maintenant Bordeaux va devoir batailler, puisqu'on rappelle l'enjeu en cas de victoire, les Bordelais prendraient la tête de la Ligue 2. Mais maintenant, il y a une grosse pression quand même sur les Girondins. L'entrée d'Albert Ellis dans un instant pour l'équipe de David Guillon. Un partout donc, la 62e.
Très bien, à tout à l'heure. Michelin a mis la gomme donc apparemment.
C'est en forme, je veux dire, t'enchaînes jour après jour, là, il n'y a pas une qui t'échappe.
Ben écoute, je passe, ça sort tout seul.
C'est bien. Parfait.
Allez, on y va pour le duel franco-portugais de demain. Florent Germain est là. Florent, bonsoir.
Salut Gilbert, salut les amis, salut à tous. Salut.
Et à événement exceptionnel, intervention exceptionnelle, messieurs, nous avons avec nous Nico Villas.
Évidemment. C'est extraordinaire.
C'est normal, c'est la semaine villassienne.
C'est la semaine villassienne. Nico,
oh,
bonsoir.
Vive.
Bon, je t'annonce, hein. Nico Villas, il vient parler de la semaine du Portugal. Les deux équipes portugaises vont perdre.
Mais n'importe quoi.
Bah, parce que c'est toujours comme ça, ils dramatisent
mais
toujours.
N'importe quoi,
ils dramatisent toujours.
Il se fétiche.
Voilà, à chaque fois, il se fétiche tout seul. Nico, Nico, on te connaît, coquin.
Non, non, pas du tout, ça dépend des situations. Mais enfin, là, t'as quand même un match qui paraît plus déséquilibré que l'autre sur le papier. Mais...
Alors. Tu vas nous dire tout du Sporting et puis ensuite de Benfica, mais d'abord les infos marseillaises. Florent, avant ce match, donc je le rappelle évidemment qu'il se jouera sans spectateurs demain à 18h45, il sera d'ailleurs sur RMC dans Rotten sans flamme en intégralité.
Oui, c'est bien triste, hein. Forcément, une belle affiche comme celle-ci. Donc match à huit clos. Les joueurs qui promettent qu'ils vont essayer de d'y faire abstraction à ce stade totalement vide. Les dernières infos compo par exemple, puisqu'il y a souvent une mise en place la veille de match avec Igor Tudor. Les infos qui nous remontent, c'est qu'il a beaucoup aimé certaines prestations à Angers. Et que certains joueurs vont remettre ça et être et à nouveau titulaire. Je pense à Balerdi, possiblement. Paul Lopez dans le but. Mbemba, Balerdi et a priori Bailly. S'il n'était pas à 100%, c'est qu'il revient d'une blessure musculaire, ce serait Gigot. Mais a priori, Bailly va faire son retour. Ce qui est une bonne nouvelle quand même pour la défense marseillaise.
Je veux dire que le gars fait un bon match, il a une forme de récompense immédiate.
Un petit peu, ouais. Un petit peu. Et aussi, il se rend compte, si cette compo se confirme demain, je suis à peu près persuadé que Balerdi jouera dans l'axe. Parce que, au départ, si vous voulez, Igor Tudor, après je donne le reste de la compo probable, il voulait pas non plus mettre le plus jeune des joueurs dans sa position forcément préférentielle. Parce que, en fait, tout le monde veut jouer dans l'axe, presque, à l'OM. On en avait parlé une fois. Bailly préfère jouer dans l'axe. Gigot préférerait jouer dans l'axe. Donc, en fait, tout le monde préfère.
Au milieu des deux autres, c'est ça que tu veux dire?
Ouais, au milieu des deux autres, voilà, au milieu des trois actions. Et là où Balerdi se sent le plus à l'aise, et ce qui est véritablement son poste, c'est le libéro à l'ancienne, un peu là, au milieu des deux. Et donc, a priori, Igor Tudor a beaucoup aimé ce match à Angers. Et donc, on partirait sur Paul Lopez dans le but, Mbemba, Balerdi, donc Bailly, s'il est OK à 100%, Klos et Tavares sur les côtés. Et l'autre enseignement du match d'Angers, c'est cette paire de relayeurs, Guendouzi, Verretou. Ce qui relèguerait, je mets un conditionnel parce que ça m'a un petit peu interpellé effectivement, mais Guendouzi Verretou relèguerait Rongier à nouveau sur le banc des remplaçants. Donc Guendouzi un cran plus bas.
Ah oui. À sa vraie place finalement.
J'en ai quasiment la certitude ce soir effectivement. Oui, Guendouzi un cran plus bas.
Il est partout donc moi j'attendais un cran plus haut et non. En revanche par rapport à Angers, ce qui est intéressant puisque tu dis que certains ont marqué des points comme Balerdi. T'as aussi ceux qui jouaient alors qu'on savait qu'ils n'allaient pas jouer le match de Coupe d'Europe. C'était aussi une façon de faire du coup d'or. Je parle pour Jackson et Payet.
Mais tu vois, pour en revenir à la compo du milieu, alors on a vu Guendouzi parfois dans les trois duos. Tout le monde sait, j'ai toujours dit que du bien de Rongier. Mais voir Guendouzi au milieu à côté de Verretou, ou ça aurait pu être l'inverse, Rongier avec Guendouzi, ça ne m'étonne pas tant que ça. Et je peux pas dire que c'est une mauvaise idée. Je préfère voir Guendouzi dans cette position-là et avoir trois vrais joueurs offensifs.
C'est là son souci, à Tudor.
Pourquoi ? Qui serait donc, pour finir, Under, Harit et Alexis Sanchez.
Et ben voilà.
Parce que
c'est bien, je préfère moi ça.
Il veut de la percussion, il veut des joueurs qui aille vite vers l'avance. On a compris que c'était moins le profil de Gerson et de Payet.
Ouais.
Et pour le coup, il sait que peut-être que c'est une manière aussi de reconnaître une erreur. Rappelez-vous, on en revient au match de Francfort où on avait tous compris le changement et les sorties de Gerson et de Payet pour les entrées d'Under et Harit. Mais beaucoup s'étaient dit, mais attends, pourquoi dans ce cas-là tu sors Alexis Sanchez? Il avait fait un peu un lot de trois là,
les trois devant.
Exactement, punition globale. Et là pour le coup, la compo attendue, on est plutôt sur Under Harit avec évidemment Alexis Sanchez.
Moi cette compo, je la trouve offensivement très intéressante. Ça a de l'allure. Je trouve cette compo très intéressante et capable de prendre le match par le bon bout. Et en tout cas de se dire on y va pour attaquer. Le Sporting, Nico va nous le dire, même si elle est moins forte que l'année dernière, même si il lui reste un truc, c'est que franchement c'est un bloc difficile à bouger tactiquement. Ce que met le coach en place, ça rend une équipe chiante à jouer. Là au moins tu vas essayer d'emballer quoi.
Le seul petit doute que j'ai ce soir pour finir la compo, là on est sur une compo très probable, mais je pensais que Rongier serait relancé mardi et qu'il avait été un petit peu préservé.
Guendouzi, tu le montes d'un cran.
Non, ça peut vouloir dire que tu fais une paire aussi Rongier Guendouzi et que Verretou sera sur le banc des remplaçants.
D'accord, je comprends.
Mais voilà. Ce soir, je suis à peu près sûr que Guendouzi sera dans les deux relayeurs un cran plus bas que d'habitude cette saison. Pour la compo probable.
C'est logique de mettre Guendouzi. Je trouve plus logique parce que c'est illogique de le mettre plus haut, même s'il fait un peu tout, parce que de toute façon, il fait plusieurs postes à la fois. C'est pour ça que, en gros, Tudor avait trouvé cette solution hybride. C'est un choix par défaut, on va dire. Mais je crois pas qu'il ait il est encore toute sa confiance dans les trois de devant. À part peut-être Alexis Sanchez, qui effectivement a été sorti injustement et qui a ce niveau-là de manière incontestable. Je suis pas certain qu'il soit sûr de son trident offensif.
Ah ça, très probablement.
Et donc quelque part, il tente quelque chose qui est de se dire, plutôt que de commencer Gerson Payet, parce que vraiment ça, par rapport à son style de jeu, ça ne correspond pas.
Ouais.
Je préfère avoir des gars qui vont vite, qui bougent et qui vont apporter. Mais je pense que qualitativement, il se sent, pour la Ligue des Champions, j'entends, il se sent insuffisant avec un trident. Je parle pas d'Alexis Sanchez, mais avec les deux, notamment Under.
Je suis d'accord avec toi, Flo, mais ça répond pas.
Je ne
répond pas à ce qu'on dit.
Alors je vais te dire.
Comme disent les plus grands, putain la balle.
Juste.
Ouais, le deuxième but, Bordelais, il y a quelques instants, avec Albert Ellis qui venait d'entrer en jeu. Il y a un bon travail de David Tachvili, le géorgien. C'est une belle action, hein, bien amené par les Bordelais. David Tachvili qui tarde un petit peu à frapper. Le ballon revient sur Ellis, frappe en force, qui passe sous la barre des Lavallois. Ça fait donc 2-1 pour Bordeaux qui reprend provisoirement la tête de la Ligue 2.
Il reste 20 minutes. Il devait partir, il n'est même pas titulaire. Bref, 2-1 pour Bordeaux. À tout à l'heure, Xavier.
Premier but de la saison.
Non, le but à Laval, c'est signature Thierry Ruffin, faut le dire.
Mais la seule question, en fait,
j'avais pas fini, en fait. C'était juste pour finir. Non, tu me demandais pourquoi il y a un problème. Tu m'as dit pourquoi tu considères. Enfin, moi, je te dis que je pense que malgré tout, Guendouzi, même si c'est pas sa place, s'il n'est pas sûr de ce trident offensif, je préférerais presque garder Rongier, Vertoux qui ont donné satisfaction au niveau des plus bas et de remettre Guendouzi, parce que tu vas voir qu'on va finir avec un débat, je le souhaite pas, mais on va avoir un débat, ah oui mais Harit, ah oui mais Under, ah oui ils sont insuffisants et il manque quelque chose.
Ouais, mais
je pense que dans cette équipe il cherche toujours un peu la pastille offensive.
Néanmoins le Guendouzi dans la ligne du haut, c'est sorti contre Tottenham avec l'idée que gros match, il faut tenir, il faut qu'on soit bien compact au milieu. Et c'est là qu'on a vu Guendouzi plus haut.
Et ça a marché.
Ça a marché. Ah, justement. Alors, non, ça n'a pas marché pour moi. Ça a marché sur la première période. Mmh. Et la seule chose que tu as espéré de ce match-là, c'est le hold-up en deuxième mi-temps.
Ouais, mais c'était une bonne stratégie.
Oui, mais est-ce que c'est une stratégie que tu vas reproduire?
Non, ça dépend des matchs.
Eh ben, donc voilà.
Oui,
donc celui-là, tu le joues à domicile contre le Sporting. Là, en fait, tu as démarré. On joue un gros, on bétonne un peu. Au mieux, on tente un hold-up, on essaye de garder le 0-0 le plus longtemps possible. C'est quand même une vision un peu restrictive qui, comme souvent dans les visions restrictives, a fait que tu as pris une porte dans la tronche avec ce carton rouge et finalement, ça a mal terminé. Donc, ça n'a pas marché finalement, le plan.
Ouais, facile.
Tu as réessayé à Guendouzi en haut.
Tactiquement, c'est 11 contre 11. Techniquement, tu peux pas faire une analyse avant ce qu'on
fait. Oui, mais si tu prends, c'est parce que t'as subi, c'est parce que c'est parti dans ton dos, que t'as fait la faute. Résultat, pour moi, ça a pas fonctionné au final.
Non, mais
quand un plan marche sur une mi-temps, que derrière il est déstructuré, j'en suis pas satisfait.
Que le plan global soit pas satisfaisant, je suis d'accord. Après que Guendouzi plus haut soit pas satisfaisant, oui, c'est un choix par défaut. Mais aujourd'hui, je suis pas certain. On verra demain.
Moi, je préfère.
En Ligue des Champions, je pense que si Marseille a des difficultés, c'est justement parce que offensivement, et j'exclus Alexis Sanchez de l'analyse parce que je pense que lui, il a les moyens.
C'est pas Guendouzi qui va te résoudre les problèmes offensifs.
Non, mais
pas lui.
Ouais,
ce qu'il va te donner, c'est plus de stabilité à l'équipe. Et moi, j'aime l'idée qu'ils se disent, je vais mettre trois vrais joueurs offensifs et on va jouer finalement comme on joue en championnat. Je joue le Sporting à domicile, il n'y a pas le public, c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. On va tenter d'emballer le match. Et on verra bien avec Harit et Under, ça devrait quand même pas mal bouger, ça devrait verticaliser assez vite. Moi, je suis assez satisfait de cette compo, si c'est cette compo-là.
Alors, un mot du Sporting maintenant, mon petit Nico, avant qu'on continue le débat avec Florent Germain. Sporting qui a l'air un peu étonnant cette année parce que très fort en Ligue des Champions, efficace et beaucoup moins en championnat.
Oui, alors déjà, deux infos quand même qui sont importantes côté Sporting, c'est qu'il y a deux joueurs qui étaient incertains et qui ne seront pas là demain, et qui sont Coates et Porro, qui sont les deux tauliers de la défense. On va dire Coates, c'est le capitaine, c'est le défenseur central qui a été bien remplacé, cela dit, lors du dernier match de championnat par José Marsa, qui est un joueur formé en Espagne. En revanche, à droite, c'est plus problématique parce que Pedro Porro, c'est vraiment la valeur marchande, c'est la valeur montante de cette équipe. C'est un joueur qui appartenait à Manchester City et c'est Ricardo Jgaio qui va le remplacer, qui est un joueur qui est pas mal décrié par les supporters. Et puis il y a un petit doute devant, de savoir si Marcus Edwards, le jeune anglais qui avait brillé contre Tottenham notamment, qui a été formé par les Spurs, sera titulaire ou pas. Il l'a pas été ce week-end, ou si Paulinho va jouer. Alors Amorim n'a pas trop voulu y répondre tout à l'heure en conf de presse. Cela dit, Amorim, pour répondre à ta question initiale, Gilbert, il a fait une analyse, une analogie entre Marseille et le Sporting, en disant que finalement les deux clubs se ressemblaient beaucoup, mais dans des compétitions inversées. À savoir, il a dit Marseille cartonne en championnat, ils sont à zéro point en Ligue des Champions, et nous c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que on est super bon en Ligue des Champions et en revanche on est à la rue en championnat. C'est difficile à expliquer parce que le Sporting, quand ils ont été champions il y a deux ans, ils avaient une défense qui était très solide et finalement ils encaissent beaucoup de buts en championnat et ils en ont pris aucun en Ligue des Champions. C'est assez difficile finalement, il y a une part d'irrationalité, c'est ce que Ruben Amorim a expliqué en conf de presse. Et surtout, il a dit une chose qui est très importante aussi, c'est que le Sporting est à 6 points après deux matchs qui étaient pas du tout, on va dire, dans les plans. C'est une surprise, y compris au Sporting et au Portugal. Et il a rappelé une chose à Amorim, c'est que l'année dernière, à ce moment de la saison, le Sporting était à 0 point en phase de groupe. Et finalement, ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale une journée avant la fin. Et il a dit, bah, faut qu'on fasse quand même gaffe à ça, parce que faut pas qu'on soit dans un excès de confiance, parce que Marseille, parce qu'on n'était pas favori. Et surtout, il a rappelé aussi une chose, c'est qu'au moment du tirage au sort, bah, tout le monde était content de tomber sur le Sporting. Et lui, son espoir, c'était finalement de donner tort à ceux qui présageaient finalement une élimination prématurée au Sporting. Donc, il y a une grande part finalement de prudence au Portugal et notamment au Sporting avant ce match face à Marseille. Quand même.
Prudence aussi logique quand tu regardes le scénario des matchs, qu'ils ont été brillants sur les résultats. Contre Francfort, ça a été compliqué en première période, très compliqué pour le Sporting. Ça se termine dans les arrêts de jeu contre Tottenham. C'est pas, voilà, il faut prendre aussi.
Oui, ils sont pas baladés, tu veux dire.
Le scénario, ils sont pas baladés, ils sont pas un cran au-dessus de manière certaine. C'est pour ça que je suis assez d'accord avec l'analyse d'Amorim par rapport à Marseille. Je pense pas qu'ils puissent arriver. Je pense pas que ce soit leur mentalité ni leur envie. Et puis qu'ils arrivent à Marseille, si tu veux, en étant sûr, à la fleur au fusil, en étant sur deux.
Dans un instant, on continue le débat avec Jonathan au 32-16. Florent reste avec nous, Nico aussi. Puis Nico qui veut le dire un peu plus tard, ce qu'il pense de Benfica, bien sûr. Avant que l'on parle de Paris, c'est la semaine franco-portugaise de Nico Villas qui, effectivement, Daniel, arrive toujours un peu dans ses petits souliers, ne veut pas trop se positionner, mais qui, en général, quand même, il faut le dire, prend le dessus sur les clubs français et les clubs portugais.
Absolument.
Bon.
Absolument.
On va dire que la balance est plutôt en sa faveur, Pierre Villas.
Ouais, mais je suis quelqu'un de d'humble, vous le savez.
Exactement. Bravo Nico.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Daniel Riolo et là, Florent Gautreau est là et nous avons le privilège, messieurs, d'avoir avec nous Florent Germain et Nicolas Villas avant Sporting OM demain soir.
Ça fait beaucoup de.
Bon, Nico, tu peux fais peur un peu à Florent Germain, quoi, fais un truc. Coule vraiment les jetons, quoi.
Juste un petit point Ligue 2 d'abord, Xavier Laval-Bordeaux.
Oui, il reste 12 minutes à jouer à Le Basser et c'est Bordeaux qui mène 2 buts à 1. Maja Ellis pour les buteurs bordelais, Maggiotti pour Laval, mais attention parce que Bordeaux recule et les Lavallois vont tenter évidemment jusqu'au bout d'égalité. 12 minutes encore pour que Bordeaux garde son avantage et passe la soirée en tête de la Ligue 2.
Ça marche, à tout à l'heure. Oui, bah, si tu arrives à faire flipper Florent Germain, Nico, vas-y.
Et Francis, bah, c'est moi, donc moi, le nom de stade le plus fréquent. Francis Le Basser, Francis Le Blé.
C'était une stat.
Il y en a deux.
Bah, je suis pas sûr qu'il y ait un autre stade avec deux fois le même.
Francis Le Blé rebaptisé Francis Le Bled.
Ou Francis Le Pas de Blé.
Nico, vas-y.
Francis La Caillasse.
Non, j'allais vous dire, moi, il y a un joueur qui attire mon attention depuis qu'il est au Portugal, qui est un jeune Uruguayen qui s'appelle Manuel Ugarte, que vous allez regarder demain, numéro 15 du Sporting, milieu de terrain. C'est vrai que le Sporting, ils ont perdu quand même deux joueurs qui étaient très importants dans les derniers instants du mercato, qui sont Palinha et qui est parti à Fulham, et surtout Matheus Nunes qui est parti dans les derniers instants à Wolverhampton. Et ils ont été obligés de refaire le milieu de terrain, qui était vraiment le secteur fort de cette équipe. Ils ont recruté un Japonais. Il y a une grosse hype autour des Japonais au Portugal depuis 2-3 ans d'ailleurs. Ah bon? Il s'appelle Morita, qui est pas mal du tout, joueur assez fin techniquement.
D'habitude, ils vont en Allemagne, les Japonais.
Ouais, bah là, ça fait, écoute, il y a une grosse hype autour d'ailleurs de globalement de la zone Asie. Il y a beaucoup d'Iraniens ces dernières années, pas mal de Japonais aussi. Et Ugarte, qui était un joueur qui était à Famalicão en D1 aussi, où le Sporting est allé le chercher. qui est un joueur qui est en train de flamber. D'ailleurs, c'est une info qui est sortie la semaine dernière au Portugal. Le Paris Saint-Germain le suivrait soit pour le mercato d'hiver, soit pour la saison prochaine. Donc vraiment, suivez ce joueur. Moi, je pense que demain, il y aura une bataille au milieu de terrain qui va être super importante. D'où, je pense, le positionnement dont parlait tout à l'heure Flo Germain, d'un Guendouzi potentiellement plus bas que d'habitude. Je pense que Tudor le sait. Ils ont observé cette équipe très bien. Tu le disais, Daniel, c'est une équipe qui est très difficile à bouger, même si encore une fois il y aura les absences de Coates et de Porro qui seront importantes. Mais tout va se jouer au milieu de terrain, et le Ugarte va être un joueur que vraiment l'OM va devoir surveiller demain. Ce sera la plaque tournante avec Morita. Ces deux mecs qui finalement découvrent et ont vraiment des responsabilités cette saison, mais ils font énormément de bien au Sporting, surtout en Ligue des Champions d'ailleurs.
Est-ce que tu flippes, Flo?
Non, mais j'espère que les Marseillais ont conscience je me suis fait plaisir à regarder de nouveau hier les, parce que Flo Gautreau disait que les victoires, notamment la dernière là, c'était joué un peu sur le fil. Enfin, je crois qu'ils ont marqué les deux buts quasiment dans le temps additionnel contre Tottenham. Mais honnêtement, enfin, j'ai trouvé que ça allait très très vite et que c'était une sacrée équipe, Nico. De certains résumés. Enfin, je sais pas. Cette équipe dégage un certain engouement. Ça sent beaucoup le ballon. Ça pue le foot au Sporting.
Nico Villas, parfois, il est assez machiavélique. Vous savez ce qu'il a fait? Comme ça, discretos, il a fait un podcast, ouais, After Galaxy sur la série de défaites de l'OM en Ligue des Champions, le mec.
Ah non, mais c'est pas, non, c'est pas là-dessus.
C'était une positive.
Juste
une
avant le positive de la chose. Moi, je dis ça.
C'était une lecture positive de la chose.
Tu peux le vice, Nico.
Tu l'as pas écouté. Tu l'as pas écouté.
Non, c'était du fact-checking avec Loïc Moreau et avec Romain Canotti. Mais non, c'est pas du tout pour. Non, au contraire, c'est plus pour aller au-delà de ceux qui peuvent tailler pour dire à la défaite.
Mais vous avez réussi à trouver des bonnes stats sur les 16 défaites.
Non, c'est pas forcément des bonnes stats. C'est tenter de comprendre et d'analyser. Parce que finalement, tu analyses 17 matchs sur 10 ans. Donc il y a plein de choses qui se cassent derrière. Derrière ces chiffres. Non, en revanche, pour rebondir sur ce que disait.
Faut rappeler juste que cette série, elle a commencé avec une qualif pour un quart de finale de.
Exactement, face à l'Inter. Ouais.
Faudrait que tout le monde l'ait en tête quand même, parce qu'on compte dans cette série la défaite de l'Inter qui avait été un moment heureux, puisqu'il y avait eu le contrôle du dos de Brandao, la frappe enchaînée. Donc, bon, les séries, faut aussi faire attention, même si. Moi, je préfère dire que les deux dernières campagnes ont été ridicules plutôt que d'insister sur la série.
Les deux dernières campagnes ridicules, c'est déjà assez parlant quand même.
Ben oui, je sais bien. Non, mais après, je veux dire.
Ça fait 12 plus 2, 4.
Non, mais au-delà de chiffres, des campagnes et tout, c'est vrai que ça peut d'abord faire peur aux supporters. Le groupe, je sais pas trop, il a pas vécu ça. Enfin, quelques joueurs sont encore là de la dernière. Mais enfin, bon. C'est juste que c'est le troisième match. Que le Sporting est une belle équipe et que si tu perds, c'est terminé. Et que, encore une fois, tu prends la porte dans la tronche dans cette compète et que même la troisième place, elle sera difficile à accrocher.
Exactement.
Demain, il te reste quand même quelque chose, Daniel, à faire. Et il va pas falloir que tu dors hésite comme sur le premier match où, bon, sa stratégie était claire, c'est on bétonne, on essaye un hold-up. Le deuxième, on y va pour attaquer et au fond, on n'attaque pas, on fait rien du tout, on est amorphe et on se fait prendre en contre. Celui-là, non seulement il faut y aller, mais tu dois le gagner. Et c'est face à une très bonne équipe, attention.
C'était l'objet de ma première question d'ailleurs à Igor Tudor pour RMC Sport. On a des interviews en tête à tête là. Et là, je vous partage cette petite anecdote. Que, du coup, première question, je demande à Igor Tudor si c'est un peu le match de la dernière chance. En tout cas, voilà, il ne faut pas se manquer et qu'il y a une vraie obligation de résultat. Donc, bon, il m'a répondu de manière correcte et sympathique. Et puis après interview, il m'a un peu malaxé l'épaule. Là, il faudra déjà aller chez le kiné demain parce qu'il est un peu costaud. Et pour le coup, c'est la première fois, je dis sincèrement, où j'ai pu prendre 5-10 minutes à discuter avec lui hors micro. Et il m'a joué le jeu du de toute façon, les journalistes, vous êtes toujours dans le sensationnel, toujours à exagérer. Tu vois ta première question là, à dire que c'est le match de la dernière chance. Moi, je vois pas les choses comme ça. Je lui dis, mais attendez, coach, si demain vous perdez, donc vous portez encore des chances de vous qualifier. Et je te prends un peu à témoin, Daniel, parce que lui qui connaît l'Italie parfaitement, mais moi je pense, je connais un peu plus l'Espagne, mais qu'on est des enfants de cœur par rapport à certains pays comme l'Italie ou l'Espagne, où parfois on aurait tendance aussi dans ces pays-là à faire peut-être à exagérer les choses ou à faire des shows où on va un petit peu plus loin. Donc je pense pas qu'Igor Tudor il puisse découvrir ça. Et j'ai été très surpris que lui n'avoue pas, ne reconnaisse pas que ce match de demain, il est capital l'avenir de, de l'OM en Ligue des Champions.
Que, bien, de toute façon, je sais quoi, de jouer sur les mots, il reconnaît, pas. On le sait pourquoi, en fait, je comprends pas l'idée, la polémique.
Ben, c'est-à-dire que lui ne veut pas accepter l'idée que ce match est le match de la dernière chance demain pour.
Si t'as trois défaites,
c'est exagéré de dire ça. Ben, mais on est d'accord. Mais c'est ce que je lui ai dit.
Il va pas gagner les trois matchs d'après.
Avec mon espagnol et lui son italien, pas... mais. J'en ai souri plus qu'autre chose. Je me suis dit, ou alors c'est que.
Ouais, il va enlever un peu de pression à son groupe.
Ou alors, faut avoir une autre lecture. Faut voir une autre lecture, parce que de plus en plus je me rends compte, même après la défaite contre Francfort, que Igor Tudor est allé rappeler que l'OM était dans le chapeau 4. Moi j'ai l'impression que l'OM veut surtout pas se mettre de pression cette saison en Ligue des Champions. L'objectif pour l'OM, c'est de se qualifier à nouveau, d'y être tous les ans pour financièrement sécuriser un petit peu le club, et puis voilà, ne plus être dans le chapeau 4, passer dans le chapeau 3 et avoir cette expérience au fil des saisons. Et j'ai l'impression que même les dirigeants, Pablo Longoria, Javier Ribalta, ne mettent pas une pression plus forte que ça à Igor Tudor concernant cette saison en Ligue des Champions, et que on va faire le match, mais j'ai l'impression qu'on glisse quand même dans l'oreille ses grandes priorités au championnat. Ce sera pas un drame si jamais on n'y arrive pas. C'est le sentiment que ça me donne, parce que pour moi, enfin, à Marseille, tout le monde a conscience que demain, s'il n'y a pas victoire, finito, hein, comme dirait un président de la République. Donc voilà, j'étais un petit peu surpris par. Non, mais j'étais un petit peu surpris par le fait qu'il veuille pas reconnaître que demain c'était.
Il veut pas
c'était
le reconnaître
un match à la moitié.
En off, il veut pas le reconnaître en off. C'est ça qui est intéressant. Parce que s'il te l'avait répondu en on, ça voulait dire que c'était de la com pour dire j'enlève de la pression à tout le monde. S'il te le dit en off, c'est plus intéressant parce que ça veut dire effectivement qu'il y a quelque chose de vrai, de sincère. Et c'est peut-être, comme tu le dis, parce que pour lui, il pense qu'il n'a pas vraiment l'effectif aussi adéquat, moi je pense, pour aller loin, et que effectivement les dirigeants peuvent penser ce que tu dis, que le championnat est prioritaire. J'avais une question quand même sur ce stade vide, parce que j'ai écouté un peu le débat que vous avez fait, je crois que c'était dans le Moscato Show ou chez Roten, je ne sais plus. J'ai un peu de surprise, j'ai entendu le stade vide, c'est peut-être pas plus mal, ça leur enlève de la pression, parce que je pense que c'est un énorme handicap quand même, t'es d'accord Florent?
Bien sûr.
Parce que c'est quand même dommage de jouer ça, mais décisif.
C'est même plus qu'un handicap, Flo. Moi, franchement, il y a des supporters à Marseille qui sont en totale déprime par rapport à ça. Parce qu'il faut rappeler que les deux dernières saisons, enfin les deux dernières campagnes de Ligue des Champions, il y avait eu celle du Covid avec Villas-Boas. Et puis celle d'avant, le stade était en travaux, bon, l'ambiance elle était pas top. Là, franchement, il y avait un enthousiasme général à Marseille de se dire, bon, en plus, la poule, elle est sympa, ça il y aura de l'enjeu, etc. Et puis tout le monde se faisait une joie que le stade soit plein. Et là, première rencontre, bam, tu prends un huis clos, et faut rappeler que le virage nord sera fermé contre Tottenham. Donc non, franchement, c'est très très mal vécu. Après, il se trouve qu'il y a un enjeu sportif et les joueurs vont être concentrés là-dessus. Mais Amin Harit, par exemple, qu'on a rencontré en fin de semaine dernière. Il cache pas que la fête elle est gâchée, et que
titre quand même.
Nico Villas veut remplacer une.
Non mais juste là-dessus, parce que Amorim a été interrogé aussi là-dessus sur le fait que le match soit huis clos. Là pareil, il y avait un parallèle qui était assez intéressant, qui a été rappelé par Amorim. Le Sporting, quand ils ont été champions il y a 2 ans, ils le sont pendant la période Covid, donc pendant les stades vides. Le Sporting était plus champion depuis 19 ans, hein, donc ça faisait une éternité que le Sporting courait après ce titre de champion du Portugal. Et Amorim a été interrogé là-dessus, il a dit nous il y a 2 ans on a été champion sans le public, donc on sait qu'on peut gagner sans le public. Et à l'époque d'ailleurs, il y avait une telle tension entre les supporters et les joueurs du Sporting que certains au Portugal avaient analysé la victoire finale du Sporting en championnat parce que le public n'était pas là, c'est-à-dire ils évitaient la pression. Et c'est ce qu'Amorim a dit tout à l'heure en conf de presse, en disant vous savez, c'est à double tranchant d'avoir un public qui est chaud bouillant comme c'est le cas à Marseille, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous pousser, oui, mais peuvent aussi parfois porter.
Dans un contexte difficile, je suis d'accord Nico, quand il y a
la lambiance elle est positive à Marseille,
tu perds un atout. Bon les gars, il faut qu'on fasse une pause. Florent, merci. À demain.
Merci à vous.
Bien sûr, merci pour toutes les infos. Nico aurait pu te répondre. Lisbonne tremble parce que on sait que il y a pas Payet dans l'équipe. Ben non, il l'a pas dit, Nico. Mais il pourrait rentrer, hein, évidemment. Dans un instant, Jonathan, supporter de l'OM, et tu nous diras tout sur Benfica. Également, Nico, la semaine franco-portugaise continue dans l'after. Elle commence ce soir, elle continue demain et après-demain. Bien sûr, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
22h36, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, tout comme Nico Village, toujours avec nous. Dans quelques instants, on confirme le score définitif à Laval, le traditionnel, toujours 2-1 pour les Girondins de Bordeaux. Et pour conclure sur l'OM, nous sommes avec Jonathan au 32-16 qui est là. Jonathan, bonsoir.
Bonsoir Gilbert.
Salut Jonathan.
Bon, demain salut, c'est Daniel, le match de la dernière chance, comment tu le vois?
Bah écoute, moi juste avant de vous donner mon avis, je voulais juste dire continuez comme ça parce que je vous écoute tous les matins quand je me lève à 7h et pas que vous, il y a ma petite femme quand elle se lève ainsi que ma petite fille, on a le droit au podcast et franchement c'est top et en plus la revue de l'after, même pour vous dire que même ma mère a lu la revue de l'after Foot et Média, elle a adoré ça.
Bravo ta maman,
continuez
bravo.
Continuez comme ça. Ouais mais écoute, j'espère qu'elle écoutera.
Alors, comme vous allez comme tu vas écouter demain, on va dire bon réveil et bon petit déj à toute la famille.
Message. Ils vont adorer ça, à ma petite femme Thalie, à ma petite Philisa. Ouais.
Jonathan, bouge pas deux secondes. C'est terminé entre Laval et Bordeaux, rapidement, Xavier.
Oui, c'est terminé. Bordeaux qui s'impose à Laval 2-1. Maja Ellis pour les buteurs bordelais. Maggiotti pour Laval. Ça a été chaud. Hein. Il y a peut-être un pénalty dans les arrêts de jeu non sifflé pour les Lavallois et un but refusé pour hors-jeu pour les Tangos. Bordeaux va prendre la tête de la Ligue 2 pour la deuxième fois de la saison avec cette victoire ici en Mayenne. 2-1.
Ellis, il a fait l'hélicoptère non, quand il a marqué après comme célébration.
Voilà. On t'a connu meilleur. Par contre, j'ai jamais compris pourquoi on appelait les oranges les tangos.
C'est la vraie couleur. C'est une couleur, le
c'est
tango.
C'est une couleur, le tango.
Ah, c'est un nom de couleur, ouais. Comme ouais. Le magenta.
Ah exactement. Oui,
je savais pas.
Ah ouais.
Magenta, c'est un nom de
Laval, c'est tango
aussi.
Et noir. C'est couleur officielle.
Bon, Jonathan, merci pour cet hommage à l'after. C'est très sympa.
Ah, mais c'est normal. C'est normal. C'est normal.
Ce qui me permet
c'est
de placer que la revue est toujours disponible sur afterfoot.media si vous avez raté les numéros précédents.
Elle est aussi dans.
Et elle est en kiosque.
Elle est en kiosque, évidemment.
Et quand je pars tous les ans au Canada, j'ai la revue avec moi et j'écoute les podcasts aussi. Donc franchement, c'est...
Ah bah tiens, on peut t'annoncer que la prochaine revue qui sort avant la Coupe du Monde, 10 jours avant la Coupe du Monde, sera évidemment consacrée en grande partie au Qatar et puis au débat d'idées qui se fait actuellement et dans l'after et dans la société en général.
Et sur beaucoup de souvenirs... Voilà. Coupe du Monde.
J'irai l'acheter avec grand plaisir.
Et notamment en avant-première, je peux le dire, j'expliquerai dans cette revue pourquoi la Coupe du Monde 82 est la plus belle de l'histoire.
Ok.
Avec moult arguments.
Moi, je suis né en 84. C'est dommage. Voilà.
Parce que c'est celle où tu avais.
Non, cherche pas,
l'âge.
C'est parce que c'est celle où l'Italie a gagné.
Non.
Ah, non.
C'est pas aussi simple que ça. Mais de toute façon, vous le verrez. J'ai écrit.
Tu vas me dire non, Daniel, mais c'est notamment parce que c'est celle d'une partie de ton enfance et de celle où on a 12 ans.
Non, non. Tu verras. C'est pas ça.
Bon, on verra.
D'autres arguments, mais
je l'ai expliqué. Tu vois.
Restons sur notre sujet là.
Je pense que tu seras sensible à mes
Jonathan,
arguments.
Jonathan, comment tu le sens toi pour demain dans un stade vide avec une équipe qui est en plein doute en Ligue des Champions depuis maintenant des années.
Alors oui, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que le Sporting actuellement ils sont septième dans leur championnat. Ils ont gagné 3-1 ce week-end contre Gil Vicente. Et nous, bah,
le club de Nico,
on est deuxième. Vous m'entendez?
Oui, très bien, très bien.
Non, très bien. Et nous, on est deuxième et on a gagné aussi pareil, 3-0 contre Angers. Faut savoir qu'en cycle Sporting, c'est une équipe très collective, c'est une équipe qui aime bien jouer. C'est 630 passes, un peu plus de 630 passes lors du dernier match quand même, plus de quasiment 70% de possession. Donc peut-être Nico Villas, il pourra me confirmer ce que je dis. C'est pas une équipe juste dans la contre-attaque ou ce genre de choses, c'est une équipe joueuse. Donc face à Marseille, ça peut donner un bon match. Moi les clés du match que pour demain, c'est Under et Harit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui ils sont je pense qu'ils vont avoir faim, ils vont avoir les crocs. Alors certes, ils vont être légers par rapport à la Ligue des Champions, par rapport à d'autres joueurs comme peut-être Payet ou même Gerson qui a pas non plus joué moult matchs en Ligue des Champions, mais avec Sanchez, le trio de devant et avec un Guendouzi en appui, vraiment ça peut vraiment vraiment donner quelque chose. Klose qui va donner à fond, Tavares aussi qui va faire ses grandes déboulées. Et je pense vraiment que demain, dommage qu'il n'y ait pas le public, parce que je pense que c'était l'atout, c'était ce moment-là.
D'ailleurs, à ce sujet, je voulais dire tout à l'heure, on a été interrompu par la pub. Je ne sais pas quelle est la position des associations de supporters sur la question. Je les ai peu entendues, ou alors je suis passé à côté, et je m'en veux si je suis passé à côté. Mais pour un match de Ligue des Champions aussi important, savoir que le stade va être vide, moi je trouve qu'il y en a beaucoup qui devraient se regarder dans une glace et dire voilà ce qu'on va proposer à l'OM, à notre équipe, voilà ce qu'on fait comme connerie, parce que pour en arriver à un huis clos en Coupe d'Europe, ça veut dire que c'est pas une fois, mais ça veut dire que t'as un dossier qui est un peu lourd. Et je pense que d'abord tu donnes une image détestable de ton club, alors qu'être en Coupe d'Europe et notamment en Ligue des Champions, ça doit être valorisant pour toi, les supporters, les joueurs, le club. Et là, bah, tu passes pour un club de merde parce que t'es à huis clos et que t'as pas les, tes gens qui viennent te soutenir. Et moi ça me désole pour l'OM. Mais... que cette équipe joue au Vélodrome alors que on y était pour Francfort. Bon, il y a eu des incidents, mais je veux dire, au-delà des incidents, il y avait un bruit, il y avait une ambiance de folie. Ouais, et ça, Daniel, on devrait toujours l'avoir, quoi. Ouais, et ceux qui foutent la merde, provoqués, pas provoqués, parce que j'ai bien vu que les mecs de Francfort, évidemment, ont provoqué, on l'a vu, on n'est pas bigleux, on sait bien comment ça s'est passé. Mais à un moment, il n'y a pas que pour ça qu'on en est arrivé au huis clos. Il y a eu d'autres choses avant. Et les supporters de l'OM doivent vraiment se remettre en question, et les associations aussi, il faut faire attention.
Il n'y a pas que les supporters de l'OM, il faut savoir aussi que moi j'ai un ami qui travaille à l'Olympique de Marseille. Tout le travail des personnes, des employés, que ce soit du digital, que ce soit de la billetterie ou autre, tout le travail qu'ils font depuis des semaines et des mois pour en arriver là, bah, c'est détruit.
Absolument.
Oui, il y a les supporters, oui. Mais il faut penser aux 60-70 employés de l'Olympique de Marseille qui se bougent, qui sont aussi des supporters. Il faut savoir que la mentalité change par rapport à notre ancien président. On essaye de mettre cette culture Marseille, et aujourd'hui ça recrute et on essaye de faire grandir.
Voilà, et à cause d'une poignée de cons, tu fous tout ça en l'air.
Exactement.
Et ça, c'est pas possible. Ça, on n'est pas un club sérieux quand on joue un match à huis clos de Coupe d'Europe. C'est pas bien.
Exactement. Exactement. Et ce que je voulais rajouter aussi, pour conclure, le budget aujourd'hui de Marseille, c'est 250 millions d'euros. Le Sporting, c'est un peu plus de 70 millions d'euros. J'espère que aujourd'hui, on va, en tout cas demain, on va montrer et on aura cette, en tout cas gagné ce premier match par rapport à un club du Sporting qui est largement, en tout cas, je pense, à notre portée. Et juste avant de raccrocher, et merci messieurs de m'avoir laissé parler, c'était vraiment un honneur de venir aujourd'hui et de parler avec vous. C'est faire une dédicace à ma petite femme Thalie, à ma petite fille Lisa qui écouteront demain matin, et à mon cousin aussi qui est un grand fan de l'OM et que j'essaye de mettre à l'after petit à petit pour qu'il ait au maximum d'infos et qu'il soit pas buté sur pas mal de choses. Voilà. Merci à vous messieurs en tout cas.
Jonathan, merci pour ce prosélytisme afterien que tout le monde devrait faire d'ailleurs. Puisque c'est de salubrité publique, vous savez.
Converti tes proches.
Et Daniel, lâche rien. On est à chaque fois, on te suit. Et Marseillais, pas Marseillais, à chaque fois, ce qui est bien, c'est que t'es objectif et il faut garder ça.
C'est gentil. Merci beaucoup.
Ah, surtout merci, maintenant, il a fond avec Marseille, Daniel.
Salut, Jonathan. dans un instant, Benfica PSG au programme. On revient tout de suite dans l'after.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h46, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là. On me signale sur le hashtag RMC Live que tu oublies un Francis, Daniel. Allez, il se trouve dans le sud de la France, à côté de Marseille.
Turcan.
Francis Turcan.
Martigues.
Exactement.
Bah, ça conforte mon idée que le Francis est le stade.
et peut-être même que dans d'autres stades moins connus, c'est vrai qu'il faudrait voir si on peut nous donner des noms de stades avec des Francis comme prénom. Peut-être que c'est ta raison.
Francis Nantes, un Gaston Gérard, un Gabriel Montpied.
Est-ce que le prénom de l'abbé des champs, c'était Francis, va savoir.
Geoffroy Guichard.
Un Geoffroy, ouais.
Geoffroy Guichard.
Parce qu'il y a des stades qui n'ont pas de nom.
Oui, tout à fait.
Genre Vélodrome, c'est pas un nom. Ah, Parc non. des Princes, c'est pas un nom.
Giuseppe Meazza.
Oui, non, mais en France.
Bah, si, c'est des noms quand même. Parc des Princes, c'est un nom.
Oui, oui. Non, mais c'est pas un nom, le nom d'une personne. Comme chez toi, la Méno, c'est un quartier, c'est pas le nom de quelqu'un.
Exactement.
Voilà. Donc il y a autant de stades avec des noms de quartiers ou de vins que...
J'avais proposé qu'on le rebaptise stade Ali Bouafia.
Le Parc des Princes, c'était un lieu-dit, tu le sais. C'était une forêt, c'est là où les petits princes allaient jouer, en bordure du bois de Boulogne. Le fils du roi allait jouer dans ce coin-là, c'est pour ça qu'on a appelé le Parc des Princes. Voilà.
Nico Villas, toujours là. Nico, tu nous as parlé du Sporting.
Il est encore là, lui.
Bah oui, il fait des heures sup. dis-nous tout maintenant de Benfica et de son début de saison. Plutôt bon, enfin même très bon, à part ce week-end.
Ouais, alors c'était même historique, puisque Roger Schmidt, l'entraîneur allemand qui arrivait l'été dernier, était à 13 victoires en 13 matchs. Alors le record est détenu par Sven-Goran Eriksson dans les années 80. Il avait fait finale côte de Coupe d'Europe, notamment à l'époque aussi. Il s'était vraiment révélé, il avait explosé avec le Benfica.
Ah, c'était une grande époque de Benfica en plus.
Ouais, alors c'est l'une des grandes époques. Années 80, ils font plusieurs finales de Coupe d'Europe. Alors il y a la fameuse... Il y a la fameuse malédiction de Gutmann qui fait que bah, il n'y a plus de victoire en finale, mais ils ont un record avec la Juve de finale perdue en Coupe d'Europe. Et là, ce week-end, c'est vrai que c'est le premier coup d'arrêt, 0-0 à Guimarães face au Vitória, avec des joueurs qui pourtant font un début de saison hyper intéressant. Je pense à Enzo Fernandez, à Rafa qui vient de prendre sa retraite internationale, João Mario qui revit, David Neres, et ils sont un petit peu passés à côté du match. Alors certains expliquent ça parce qu'il y a eu la trêve internationale et que des joueurs comme Enzo Fernandez qui a eu sa première sélection avec l'Argentine sont peut-être un peu fatigués, mais c'est vrai qu'il y avait des mecs qui étaient franchement en dedans par rapport à ce qu'on a vu. Et à la fin du match, Roger Schmidt a même dit, on a fait match nul et franchement c'est un bon point parce qu'on aurait pu pas perdre la rencontre. Il y a une action en fin de rencontre hyper confuse dans la surface de réparation du Benfica où les joueurs de Guimarães ont réclamé un pénalty où franchement l'action est très très litigieuse. Donc c'est vrai que le Benfica s'en est bien sorti ce week-end en faisant un petit peu tourner. Il y a toujours des ajustements ponctuels qui sont faits par Roger Schmidt, mais il y a pas une profondeur de banc extraordinaire. C'est-à-dire que les choix de Schmidt, on les connaît déjà très très largement à l'avance, peut-être à un ou deux joueurs près à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui est très joueuse. Je regardais une stat que le CIES, l'Observatoire du foot, a sorti aujourd'hui. Dans tous les championnats du monde, tout continent confondu, il y a City qui est l'équipe qui fait le plus de passes. En deux, il y a je sais plus qui. En 3, il y a le Benfica et en 4, il y a le PSG. Voilà, ça vous donne une idée un peu du style de jeu des deux équipes et de ce qu'on pourrait peut-être voir sur le terrain aussi.
Bon. Tiki-taka.
Non, mais ce qui nous vaut l'avis de Daniel du soir concernant ce match, Jingle Ariolo.
C'est bon, 27%, on a compris. Arrêtez, bref, je crois que je suis teubé ou quoi.
On est dans les maths ce soir.
Alors oui, attention, tu parles sous le contrôle de Nico Villas,
effectivement. Nico Villas nous parle du Benfica de cette saison. Et il faut le dire, c'est un Benfica qui reste déjà sur une campagne très intéressante en Ligue des Champions l'année dernière. Une équipe qui, de toute façon, n'est jamais ridicule. C'est la base.
En Ligue des Champions, c'est arrivé assez souvent, assez récemment, mais...
L'année dernière, on est d'accord qu'il reste sur.
Ouais, mais avant, il s'était fait sortir à chaque fois en phase de poule. L'année dernière, c'est l'année qui a décomplexé le Benfica en Ligue des Champions sur les dernières saisons. Mais avant ça, il y a eu des campagnes désastreuses aussi. Hein.
Bon, ça.
Bon, j'ai pas envie de vous dire ton avis tout de suite. Hein,
ça bousille en rien mon avis, puisque de toute façon, ce que je voulais dire, c'est que c'est une équipe qui n'est jamais ridicule, quoi qu'il en soit. Elle peut être faible, mais pas ridicule. Et surtout, j'allais dire, quand elle joue à domicile. Je crois pas, pour ceux que ça intéresse, les stades de ce genre-là, que les équipes françaises aient l'habitude de briller là-bas. C'est une équipe qui est dans un club qui est dans une bonne phase, bonne campagne de Ligue des Champions l'année dernière. Ils démarrent bien cette année et sont, au moment du tirage au sort, certains bêtement ont peut-être pensé que Paris et Juve étaient les deux favoris. Je pense que Benfica est le deuxième candidat à la qualification et que c'est plutôt à Juve et qu'il va devoir s'arracher jusqu'à la fin. Et tout ça me conduit à penser qu'en fait, pour le PSG, c'est le premier test de la saison. Je pense qu'ils n'ont pas rencontré depuis le début de la saison une équipe aussi forte que Benfica. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas passer. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire quelque chose que les clubs français ne font pas, c'est-à-dire aller gagner à Lisbonne. C'est fort possible. Néanmoins, puisqu'il s'agit d'un nouveau PSG dont on a beaucoup parlé, qu'on a présenté comme limite révolutionnaire, avec nouveau coach, nouvelle approche, le premier test, c'est pour mercredi soir. Moi, cette théorie de la révolution, du nouveau système, du nouveau tout ce que vous voulez, je n'y ai jamais cru. Pour citer un auteur trop méconnu qui s'appelle Nicolas Jamin, les gens ne sont pas exigeants, ils ont de la chance. Et les supporters du PSG ont arrêté l'exigence depuis très longtemps maintenant. Et ils ont de la chance parce qu'ils considèrent que le PSG joue bien depuis le début de la saison, en tout cas certains, beaucoup, majoritairement. Puisque Neymar joue sur une autre planète, que Messi va redevenir le meilleur joueur du monde, que Sergio Ramos est fantastique dans cette défense à 3, que Verratti est irremplaçable et que donc tout va bien dans le meilleur des mondes au PSG. On verra mercredi déjà ce que ça va donner ce match. Sur les dernières semaines, je trouve que le PSG ne produit pas de belles prestations. En termes de jeu, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est rien, en tout cas rien de différent par rapport à l'année dernière. Les 2-3 premiers matchs, l'enthousiasme des 2-3 premiers matchs, notamment celui de Lille qui était surgonflé au possible, a donné l'impression qu'il y avait quelque chose de différent. Les 6 premiers mois de Tuchel, par exemple, en termes de jeu, avaient donné des choses bien plus intéressantes. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas d'approche tactique de la part de Galtier. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de choix fort dans ce que l'équipe produit ou ne produit pas. Elle a encore gagné samedi parce que Messi a marqué un beau coup franc, que Mbappé est rentré en jeu et que c'est un joueur en norme. Bref, c'est toujours la même histoire. Nous parlons d'individualité. Le milieu de terrain n'a pas été restructuré puisque de toute façon, tout continue de tourner autour de Verratti. Ceux qui sont arrivés savent qu'ils ne seront jamais titulaires, rentrent, vont faire des petits bouts de match, ne s'installeront jamais. Je dois faire une parenthèse. J'ai eu beau le défendre toute ma vie, je trouve qu'il est formidable, mais là, non, c'est plus possible. On ne peut pas se blesser autant. Renato Sanchez, c'est pas possible. Il est trop blessé. Je pense
qu'il décide
corps,
demain matin à Paris.
Je pense que son corps va, présente un problème qui le rend inapte au football de haut niveau. Mais au bout d'un moment, c'est fatigant. J'ai eu une indulgence énorme envers ce joueur. Il reviendra peut-être au mois de mars, j'en sais rien. Il sera peut-être formidable quand il jouera parce qu'il a des capacités que j'aime beaucoup. Mais moi, ça commence à me fatiguer. Les bons joueurs, c'est ceux qui jouent et c'est ceux qui sont pas blessés. Donc là, il me fatigue. Parenthèse refermée. Je termine donc sur ce manque d'exigence. J'espère que le Paris Saint-Germain ne s'en rendra pas compte mercredi soir que, encore une fois, on l'a vu trop, trop beau. Ça n'est que Benfica, mais c'est Benfica quand même. J'ai jamais eu de mépris pour le football portugais, bien au contraire. Je pense qu'il est supérieur au nôtre. Et je ne me risquerai pas à parier la mallette à Rocco sur une victoire du PSG au Stadio da Luz, parce que vraiment, cette équipe, elle va proposer une opposition au PSG qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir, c'est-à-dire un fort pressing, une verticalisation assez rapide. Ils n'ont pas l'habitude, les Parisiens, de jouer contre ce genre de formation, surtout pas en Ligue 1. C'est leur vrai premier gros test et je suis très, très impatient de voir ça.
Juste avant que Flo donne son avis à lui aussi, sachez que Verratti s'est entraîné normalement aujourd'hui et il a plus mal au mollet, il devrait donc jouer mercredi. Voilà. Flo, d'accord avec Daniel ou pas ?
Oui et non, parce que le PSG nous a habitué aussi dans ses phases de poule de Ligue des Champions, dans les phases de poule récentes, à assez bien gérer des gros matchs, voire des très gros matchs, des affiches entre guillemets, hein, en poule, en groupe, et à ne pas après reproduire ces prestations-là en mars, parce que justement c'est les autres équipes qui étaient montées en puissance et elles qui n'y étaient pas. Donc le PSG est quand même... Tu as raison, tactiquement et en termes de jeu, c'est pas exceptionnel. C'est souvent effectivement lié à leurs individualités, mais c'est quand même un PSG qui a des certitudes, qui arrive avec de la confiance et avec parfois plus de certitudes que ce que tu as pu avoir, enfin plus de certitudes que ce que tu as eu avec Pochettino, par exemple. Moi, je trouve. Donc
de poule.
Tu me parles de Tourelle, je suis assez d'accord.
En phase de poule.
Ouais, moi je trouve que
il y a quoi de différence avec l'année dernière? L'année dernière, quand tu bats City, on en était limite au sacrifice humain autour du Parc des Princes.
Ouais, mais
c'était la grande folie. L'équipe jouait le feu de Dieu, c'était magnifique. Tout le monde a oublié que la deuxième mi-temps, t'as défendu le cul par terre.
Ouais, mais
même contre Nice, parfois, t'as défendu le cul par terre.
En Ligue 1, je trouve que effectivement, là, en ayant fait tourner, tu as rappelé que Mbappé, s'il a été difficile, c'est qu'il est entré en jeu, il était sur le banc. Oui, c'est normal que quand tu as ton meilleur joueur, enfin sur le banc, ton meilleur attaquant, il n'est pas là, donc il fait la différence quand il entre. Mais s'il est là pour faire la différence sur un coup de pied arrêté, c'est aussi le lot de même pour Paris. Donc, je pense que en poule, ils nous ont souvent habitués à quand même à se mettre à ce niveau-là. Donc oui, c'est un test, c'est évident, t'as raison.
Mais attention, Benfica. En poule, ils passent toujours tranquille.
Ouais,
mais en poule,
c'est pour ça que je te dis, ça préjugera pas grand-chose.
Regarde leurs résultats en poule à l'extérieur. Et tu vas voir que c'est nettement moins brillant.
Peut-être.
En
peut-être.
Poule à l'extérieur.
Peut-être, ouais.
Même sur des matchs
Nico,
comme Naples, Liverpool, Bayern, souvent ils perdent.
Non, mais je trouve que ton analyse à laquelle je peux souscrire, elle vaut plus pour moi pour la suite. Je suis plus inquiet en me projetant, pour me dire qu'est-ce que cette équipe va être capable de faire.
Moi je me projette pas si loin.
Moi
parce
là pour l'instant, je dirais que le PSG.
Moi je veux déjà voir. Je veux voir contre Benfica ce que ça va donner. Parce que Benfica, moi mon avis c'était Benfica. Le PSG, depuis le début de la saison, n'a pas rencontré un adversaire aussi fort que Benfica.
Donc, en Ligue des Champions, tu rencontres...
Non, pas logique. Pas si logique que ça.
Non, mais c'est en Ligue des Champions que tu risques de rencontrer
je suis impatient de voir ça. Curieux de voir ça. Si le PSG fait un gros match et va gagner là-bas sans problème, ce sera pour moi...
Je te dis que ça ne changera pas grand-chose.
Ce sera pour moi quand même un point très positif.
Ouais.
J'en ferai pas un favori à la victoire finale, mais ce sera positif. Ce sera positif parce que vraiment cette équipe, elle me plaît beaucoup.
Bon, Benfica à domicile contre le club français, Nico, c'est ils gagnent.
Ouais, mais parfois en mettant des buts de la main.
Ok. Un club français n'a jamais gagné à Benfica, si je dis pas de bêtises.
C'est autorisé.
Ouais, y a, alors le, après le problème avec ces statistiques-là, c'est que non, il y a jamais eu de défaite pour le Benfica à domicile en 15 matchs, toute Coupe d'Europe confondue, effectivement. Après, le problème, c'est que c'est pas le même Paris Saint-Germain, par exemple, que le Benfica a affronté il y a quelques années. C'est-à-dire que Daniel a raison quand il dit peut-être probablement le Paris Saint-Germain a pas affronté une équipe qui joue comme le Benfica cette saison, mais le Benfica, qui est sur un quasi sans faute depuis le début de saison, ils ont pas non plus rencontré une équipe encore du niveau du PSG. Et surtout, la vision qu'on a du Paris Saint-Germain. Bien sûr. Mais la vision, après, c'est un test, comment dire, c'est pas le même rapport de force. C'est-à-dire que la vision du PSG, comme dans beaucoup d'autres pays, hein, d'abord, on a décrit ce club-là comme un club voilà, de nouveaux riches qui fait venir des stars à travers Mbappé, Neymar, bien sûr, il y a quelques années. Et puis aujourd'hui, c'est devenu, parce qu'au Portugal, on voit beaucoup les choses à travers le prisme des Portugais. C'est-à-dire qu'on vit beaucoup le football par procuration. Le foot portugais, contrairement. Aujourd'hui, il y a un truc, puisqu'on est dans la soirée franco-portugaise, il y a une question qui a été posée à Ruben Amorim, parce que l'un des gros enjeux de cette semaine, c'est le ranking UEFA, oubliez pas ça. Et au Portugal, ils sont obsédés par ça comme en France, puisqu'avec la nouvelle réforme de la Ligue des Champions, la cinquième place, elle va être hyper, hyper importante. Et il y a un journaliste français qui a demandé à Ruben Amorim tout à l'heure, lui a dit, est-ce que vous, au Portugal, vous êtes obsédés par ça comme nous, en France, on l'est vis-à-vis du ranking UEFA? Et Amorim a dit, ouais, bien sûr que nous, au Portugal, on pense au ranking, mais pas de la même façon qu'en France. C'est-à-dire que pour nous, on veut d'autres places en Coupe d'Europe parce qu'on a besoin de l'Europe pour gagner de l'argent. C'est-à-dire, nous, on n'a pas les moyens des clubs français. Tout à l'heure, l'auditeur le disait. Alors, le budget du Sporting, il a quasiment doublé parce que il y a une opération boursière qui a été effectuée avec des achats d'actions. Le capital social, il est à 150 millions d'euros. Mais il y a trois semaines, il était à 80 millions d'euros. Le budget du Sporting, qui était champion à deux ans, c'est 80 millions d'euros. Ça veut dire que quand tu te qualifies pour la phase de poule, tu prends 50% de budget en plus, rien qu'avec une qualif. Le PSG demain, qui gagne le match ou pas, les 5 millions de dotation pour eux, ça change rien. Mais pour le Sporting, pour le Benfica, ça change énormément de choses. Il y a aussi autre chose, on a souvent parlé de ça. Pourquoi les clubs français vendent très bien? Alors au-delà de la Jorge Mendes connection, du savoir-faire en termes d'agencement de joueurs,
pourquoi
etc.
Les clubs portugais vendent très bien. T'as dit les clubs français.
Les clubs portugais, pardon. Ouais. C'est parce que ils ont conscience que la plus belle des vitrines pour valoriser un joueur, c'est les coupes d'Europe. J'allais dire la Coupe d'Europe. C'est les coupes d'Europe. Conférence League, bon, ils y sont plus cette année, mais Europa League, etc. La meilleure façon de valoriser les produits, c'est ça. C'est-à-dire que la grande différence qu'il y a très souvent, tu vois, je relisais les déclarations de Longoria. Longoria, quand tu lui demandes c'est quoi l'objectif de l'OM en Ligue des Champions, c'est de se qualifier. C'est ce que disait Flo tout à l'heure d'ailleurs. Ok, mais et c'est quoi le projet une fois que tu y es? Ah bah, Flo le disait tout à l'heure, c'est de se requalifier la saison d'après. Mais au Portugal, les gars, quand ils y sont, ils veulent gagner. Parce que, comme l'a dit Amorim tout à l'heure, tu es un grand club, tu te dois de faire honneur à ton statut, mais parce que quand tu gagnes, tu prends les dotations et que t'es hyper dépendant de ça également. Et ça, c'est la grosse différence. Et c'est l'une des explications qu'il peut y avoir au niveau de la différence des résultats européens entre les clubs français. Alors, j'allais dire les clubs portugais, c'est pas les clubs portugais, c'est le trio portugais. Parce que quand on parle de Coupe d'Europe et de clubs portugais, mis à part Braga qui a eu quelques bonnes performances européennes, notamment en Europa League, le foot portugais se résume à trois clubs, hein. Faut pas oublier ça aussi, hein. C'est une réalité qui est totalement différente aussi du foot français.
Moi, les petits parcours de Braga en Coupe de l'UEFA.
Oui, c'est ce que je te dis.
Braga fait l'année dernière, Braga a sorti Monaco, hein.
Ouais. C'est ce que je vous dis. Braga commence à sortir, mais vous savez qu'au Portugal, il commence à y avoir limite un militantisme médiatique pour que Braga devienne champion. C'est-à-dire que le président a même fait une proposition de réforme d'une réforme des championnats, du championnat et des compétitions internes, pour que les autres clubs puissent exister également. C'est-à-dire que faut pas oublier que la réalité du football portugais, c'est pas Benfica Porto Sporting, c'est l'Académica qui est en Détroit, qui est dernière aujourd'hui, qui est le doyen des clubs portugais, et c'est tous les autres clubs qui crèvent la gueule ouverte. C'est pour ça que des fois, quand je vous dis, je dépeins le football portugais comme négatif, c'est pas négatif, c'est que pour moi, le football peut pas se résumer à trois clubs. C'est pas possible.
Merci Nico.
Merci à vous, les gars.
Tu seras là demain et après-demain, hein, bien sûr. Pour la semaine franco-portugaise, c'est un peu ta semaine. Dans un instant, on parle cette fois Ligue 1 et Florent Gautreau va nous annoncer la valse des coachs à venir. Oui, parce qu'il est comme ça, Florent. C'est tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.